Isabelle Fontaine, bon matin.
Bon matin, Steve.
Pendant qu'on était tous aux Oscars, qu'on était tous à La Voix hier, t'en as profité pour écouter l'autre émission, comment ça s'appelle déjà, c'est pas très connu. Tout le monde en parle.
Tout le monde en parle. Je vous écoutais parler de votre soirée de télé d'hier avec... Et je me disais, mais comment se fait-il que personne n'a écouté Tout le monde en parle hier? J'avoue que je suis pas assidue, mais hier soir, il y avait notamment Guy Rocher, qui est un grand bâtisseur du Québec moderne, le dernier commissaire encore vivant de la fameuse commission Parents qui a mené à la création du ministère de l'Éducation. Il a aussi contribué à la rédaction de la Charte de la langue française, le père du réseau des cégeps. Oui. Donc, quelqu'un qui est particulièrement important dans notre histoire, qu'on connaît peu, mais Pierre Duchesne, qui était aussi à Tout le monde en parle hier et qui sort la biographie de M. Rocher dans les prochaines semaines. Donc, ils étaient tous les deux là. Et c'était encore plus intéressant parce qu'il y avait juste après Jean-François Roberge, notre ministre actuel de l'Éducation. Donc, de voir ces deux hommes-là sur le même plateau, c'était très, très intéressant.
Qu'est-ce que tu en as retiré?
Écoute, M. Rocher, d'abord, en plus d'être un bâtisseur, 95 ans au mois d'avril, une vivacité d'esprit incroyable. En plus de le questionner sur sa biographie, sur sa vie, sa contribution, on l'a amené sur les sujets d'actualité et notamment les signes religieux. Hein, il s'est positionné tout de suite d'accord avec l'interdiction des signes religieux, incluant les profs, en disant « Hey, nous, là, quand on a fait le rapport parent, on se battait pour une éducation laïque, alors que le Québec était blanc, francophone. Il est encore plus... Il est très diversifié maintenant, des Québécois de toutes origines, de toutes langues, de toutes religions. C'est encore plus important d'avoir un système d'éducation laïque. Et il a dit aussi, c'est le respect de l'élève dans sa différence qui doit compter. Il dit, c'est drôle, on a comme renversé ça. Et là, on parle du respect de la liberté du prof d'exercer sa religion, alors que le prof est là au service de l'élève. Et c'est le respect, c'est dans le respect de l'élève qu'on devrait avoir des enseignants laïques.
N'est-ce pas particulier que dans notre société d'aujourd'hui, le respect de la minorité prime sur le respect de la majorité? Il y a des gens qui vont vous dire qu'une grande société, c'est une société qui sait aussi respecter ses minorités. C'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Absolument.
Là. Mais il y a là un renversement.
Sauf que là, on est dans le respect des enfants, et du contexte dans lequel ils apprennent, en fonction de leurs origines ou de leur situation religieuse. Ça n'a pas d'importance. Un lieu où on se rassemble et où on met de côté nos différences pour miser sur ce qui nous relie. C'était incroyable. Il a aussi dit, on lui a demandé, et le crucifix alors, il a dit, évidemment, on l'enlève sans aucune hésitation. C'est un relent de l'époque de Duplessis. On l'avait mis là pour l'ascendance de la religion sur la politique. Ce temps-là est terminé, on l'enlève aussi. Donc, un beau passage aussi parce qu'il y avait Guy Rocher, Jean-François Roberge, et Jean-François Roberge, lui, a beaucoup d'ambition pour le système scolaire. Il pouvait prendre exemple sur Guy Rocher pour dire, on a eu des hommes, des Québécois à une époque qui ont eu de l'ambition pour nous, continuons d'en avoir. Et une autre chose intéressante, c'est que tu avais Jean-François Roberge, maintenant ministre de l'Éducation, et Pierre Duchesne, qui a été ministre de l'Éducation supérieure dans le gouvernement de Pauline Marois. Et il y avait des tapes dans le dos,
puis
quelques
points.
Quand même
deux grands cerveaux aussi. Là.
Deux grands cerveaux aussi. Mm-hmm. À un moment donné, Pierre Duchesne a envoyé une pointe à Jean-François Roberge en disant « Oui, on a occupé les mêmes fonctions, mais c'est aussi un ex-péquiste. » Donc, il y avait quand même une franche camaraderie là, qui détonne par rapport à ce qu'on perçoit des travaux à l'Assemblée nationale, ce que tu as parlé avec Luc ce matin. Donc, qui nous donne aussi cette impression qu'il y a une certaine proximité entre les politiciens, peu importe leur allégeance. Un beau moment de télé hier soir. Si vous l'avez raté, vous le regardez sur tout.tv. Si vous avez été déçu des Oscars ou de La Voix ou je ne sais trop.
Allez regarder ça. Allez, vous l'avez probablement enregistré de toute façon. Grosse fin de semaine pour l'Église catholique, parlant de ce crucifix dont on ne veut plus voir. Il y avait la conférence sur les abus sexuels qui était là en fin de semaine. Ça a laissé plusieurs victimes un peu sur leur faim. Il y a également la sortie du livre Sodoma.
Exactement. Un beau hasard. On ne sait pas trop si c'est un hasard. L'auteur se défendait un peu de ça. Mais cette grande conférence du Vatican sur les abus sexuels qui concorde avec la sortie de ce livre-là, le résultat de la conférence, plutôt mitigé. On se demande toujours pourquoi est-ce qu'on a couvert ces actes-là pendant aussi longtemps? Comment on va les punir? Comment on peut les éviter? On constate que les victimes n'ont pas beaucoup de réponses ce matin. Un certain nombre de solutions qui ont été mises de l'avant, mais en même temps, c'est des solutions sur lesquelles on travaillait déjà avant la conférence. On sort de la conférence avec le pape qui dit ben c'était une occasion d'éduquer ou de partager nos façons de faire à travers l'ensemble de l'institution, partout à travers le monde. Puis il y a ces résultats mitigés-là, puis il y a ce livre qu'on peut penser au début simplement sensationnaliste, mais quand on écoute les entrevues que l'auteur Frédéric Martel a données avec plusieurs médias au Québec et en France, on constate qu'en fait, il y a peut-être dans sa thèse un début d'explication à la difficulté qu'a l'Église catholique de gérer ce problème des abus sexuels, au moins sur l'opacité. Lui, sa thèse, c'est que l'Église catholique est le plus vaste réseau homosexuel du monde.
C'est sûr qu'on part avec une thèse assez
c'est, mettons
assez
campée, que c'est choc, là, tu fais comme « wow ». Une fois que tu as passé par-dessus, lui dit c'est une clé pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il dit le problème, au fond, il est fondé sur le rejet de l'homosexualité puis sa non-acceptation. Donc, dans l'Église catholique, il y aurait un nombre, une surreprésentation des homosexuels qui fait en sorte que l'homophobie y est encore plus forte et que les homosexuels à l'intérieur de l'Église ont quelque chose à cacher. Comme ils ont eux-mêmes un sentiment de crainte par rapport à leur propre situation, puis ils vivent dans la culture du secret, ça devient difficile de dénoncer des comportements graves parce que tu as l'impression toi-même d'être dans l'erreur. Fait que là, comme les prêtres ne vivent pas une sexualité normale, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, comme s'ils ont eu un écart de conduite ou s'ils sont un homosexuel refoulé, ils se sentent déjà en marge, mais ils sont pas outillés pour dénoncer ceux qui commettent les vrais crimes.
La thèse est extrême, mais elle vaut la peine de se poser la question. On parle quand même d'un célibat. Hein? Le célibat revient un petit peu au centre de tout ça. Isabelle Fontaine,
exactement.
Merci beaucoup.
Puis, tu vois... prolonge un peu, mais tu vois, en fait, ce retour à cette question de est-ce qu'on devrait laisser les prêtres avoir une vie sentimentale et sexuelle
mais non!
normale, peut-être
ils sont
même
des hommes de Dieu
être mariés, éventuellement
voyons.
Avoir des femmes, et ça lèverait cette culture du secret, ça leur permettrait d'agir efficacement pour contrer les vrais crimes.
Ils auraient plus toute leur tête pour se consacrer au dogme.
Écoute.
On s'en reparle une autre fois.
Salut!